VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Ici à Bamako, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. Au Mali, deux casques bleus de la MINUSMA, la mission de l'ONU sur place, tués et 30 autres blessés aujourd'hui lors de l'attaque d'un camp onusien par les djihadistes à Kidal, dans le nord du pays. Cette attaque survient une semaine après celle revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique qui avait visé une base de policiers nigérians de la MINUSMA installée dans un ancien hôtel à Tombouctou dans le nord-ouest. Opération qui avait coûté la vie à un militaire malien et à au moins 4 assaillants, selon les autorités maliennes. Deux casques bleus guinéens ont péri dans l'attaque d'aujourd'hui à Kidal et parmi les 30 blessés, 7 sont dans un état grave, a précisé un militaire guinéen de la MINUSMA. Au Sénégal, le procureur du tribunal spécial africain a requis la prison à perpétuité pour Hissène Habré, l'ancien président tchadien. Le procureur spécial Mbacké Fall a réclamé une condamnation à la hauteur des crimes de l'accusé. Depuis l'ouverture de son procès le 20 juillet 2015, M. Habré, qui a été amené de force devant la cour, est resté muet. Les plaidoiries doivent se terminer aujourd'hui et le verdict sera annoncé vers le mois de mai. Écoutons la réaction de Maître François Serre, avocat d'Hissène Habré à Dakar.
La défense du président Habré a toujours clamé que c'était un procès inéquitable. On a prétendu créer une juridiction internationale qui viole tous les standards internationaux. On n'a pas appliqué un règlement de procédure internationale qui permettait aux avocats de la défense d'aller faire des enquêtes, par exemple au Tchad, comme ça s'est passé dans l'affaire Gbagbo devant la CPI, où les avocats du président Gbagbo sont allés en Côte d'Ivoire. Ma sécurité personnelle était en fait menacée au Tchad. Donc il n'y a pas eu d'enquête. Et en fait, on s'aperçoit que c'est une enquête qui a été totalement manipulée par les ONG, notamment Human Rights Watch. En plus, on a pu constater qu'il y avait eu des éléments qui ont corrompu le procès, puisque les juges d'instruction ont reçu des sommes d'argent de la part du régime du président Déby. Ce qui, normalement, comme vos auditeurs américains pourraient le comprendre, suffirait aux États-Unis à arrêter un procès. Le président Déby a contrôlé ce procès puisqu'il en a été le financier.
Maître François Serre, avocat d'Hissène Habré à Dakar. Le premier tour de l'élection présidentielle au Bénin, prévu le 28 février, a été reporté au 6 mars. L'ensemble des cartes d'électeurs n'ayant pas été distribuées selon la Cour constitutionnelle béninoise. Plusieurs candidats de l'opposition avaient réclamé ce report à cause de retards constatés dans la production et la distribution des cartes des 4 600 000 électeurs. Au total, 33 candidats sont en lice dans cette élection. Et puis en Centrafrique, c'est à minuit que s'achève la campagne électorale pour le second tour des législatives et de la présidentielle prévue dimanche 14 février. La présidentielle mettra aux prises les anciens premiers ministres Anicet Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra. Les conditions sont-elles réunies pour que les différents scrutins se déroulent de manière équitable et transparente? La réponse du porte-parole de l'Autorité nationale des élections, Julius Ruffin Ngwande Baba.
Nous avons pris toutes les précautions, tout le matériel a été déployé et les bulletins aussi sont déjà au niveau des centres de vote. Donc pour nous, tout est prêt pour que le scrutin de dimanche se tienne dans de bonnes conditions.
Le porte-parole de l'Autorité nationale des élections de Centrafrique, Julius Ruffin Ngwande Baba.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le Rwanda fait part aujourd'hui de son intention de transférer les réfugiés burundais sur son sol vers d'autres pays. Kigali étant accusé d'ingérence dans les affaires du Burundi, plongé dans une crise grave politique depuis avril 2015. La semaine dernière, les experts de l'ONU avaient accusé le Rwanda de recruter et d'entraîner des réfugiés du Burundi voisin afin de renverser le président burundais Pierre Nkurunziza. Ces accusations ont été reprises mercredi par les États-Unis qui ont reproché au Rwanda de chercher à déstabiliser le Burundi en enrôlant des réfugiés burundais dans une opposition armée contre le régime du président Nkurunziza. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a nommé au poste de vice-président son ennemi juré Riek Machar, chef de la rébellion, pour se conformer à l'accord de paix signé en août 2015 et destiné à mettre fin à plus de 2 années de guerre civile. Plus de détails avec Anne Albertson.
M. Machar avait déjà été le vice-président de M. Kiir entre 2005 et 2011, quand le Soudan du Sud n'était encore qu'une région semi-autonome au sein du Soudan, puis entre juillet 2011, après l'indépendance, et juillet 2013, quand il avait été démis de ses fonctions. C'est une bonne nouvelle parce que c'est un pas en avant dans l'application de l'accord de paix, a déclaré à l'AFP M. Machar, qui s'exprimait depuis l'Éthiopie. M. Machar n'a toujours pas mis les pieds à Djouba, la capitale du Soudan du Sud, depuis la signature de l'accord de paix le 26 août 2015. Cet accord n'a pas empêché les combats de se poursuivre et les deux camps s'accusent mutuellement de ne pas le respecter. Le conflit a débuté dans la capitale, Djouba, lorsque M. Kiir, un Dinka, a accusé son ancien vice-président, de l'ethnie Nuer, de fomenter un coup d'État. Devenu indépendant en juillet 2011, sur les ruines de décennies de conflits avec Khartoum, le Soudan du Sud a replongé dans la guerre le 15 décembre 2013, quand des combats ont éclaté au sein de l'armée nationale, minés par des dissensions politico-ethniques alimentées par la rivalité à la tête du régime entre M. Kiir et Machar.
En Afrique du Sud, le discours du président Jacob Zuma sur l'état de la nation a été interrompu pendant une heure hier par les députés de l'opposition radicale. Les précisions de Michel Joseph.
Ces députés ont quitté le Parlement en scandant des slogans anti-Zuma dans le genre « Zupta doit tomber », jeu de mots en référence au lien étroit entre Jacob Zuma et les Gupta, de richissime homme d'affaires d'origine indienne, soupçonné d'avoir une influence directe sur le pouvoir sud-africain. Et Julius Malema, le soi-disant enfant terrible du parti, combattant de la liberté économique, a ignoré les rappels à l'ordre pour crier « Zuma ne mérite le respect de personne. Il nous a volé, il a corrompu l'économie de l'Afrique du Sud, il a transformé ce pays en blague. Nous ne le connaissons pas comme notre président. » Quelques heures avant le discours de M. Zuma, des échauffourées avaient éclaté entre quelques centaines de partisans de Malema et la police. Une accusation d'abus de biens sociaux, le scandale Nkandla, du nom de la résidence privée du président sud-africain et les répercussions économiques catastrophiques du limogeage de deux ministres des Finances en décembre, alimentent depuis des semaines une campagne « Zuma doit tomber ».
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Course contre la montre dans la lutte contre la fièvre Zika. Le Brésil a conclu un accord avec une université américaine pour la mise au point d'un vaccin dans un délai de 12 mois. Des détails avec Félix Yepassi Zembro.
Le ministre brésilien de la Santé, Marcelo Castro, a annoncé jeudi lors d'une conférence de presse que son gouvernement entend investir 1,9 million de dollars dans un partenariat entre l'Université du Texas et l'Institut Evandro Chagas du Brésil. Par ailleurs, le Brésil a conclu un accord de coopération avec les Centres américains de contre et de prévention des maladies, les CDC, et cherche à faire de même avec le géant pharmaceutique GlaxoSmithKline, a révélé le ministre brésilien. Le développement d'un vaccin sûr et effectif est d'une importance immédiate, a souligné de son côté le directeur des CDC, Thomas Frieden. Frieden et d'autres responsables américains de la santé qui témoignaient devant une commission sénatoriale ont expliqué que les efforts de lutte contre la fièvre Zika doivent s'orienter en grande partie sur le contrôle des moustiques vecteurs de la maladie. Le sud des États-Unis, notamment les États de Floride et du Texas, ainsi que le territoire américain de Porto Rico, abritent ce genre de moustiques, ont-ils averti.
Et pour terminer, l'ONU estime dans un nouveau rapport que le changement climatique et le phénomène El Niño ont une forte influence sur les catastrophes naturelles en 2015. Ces deux extrêmes, selon le document, ont à la fois affecté le nombre et l'intensité des sécheresses, inondations et autres catastrophes naturelles. Jacques Aristide.
2015 a été l'année de la sécheresse. C'est du moins ce qu'indiquent les données compilées par le CRED sur les tremblements de terre, sécheresses, inondations, cyclones et autres catastrophes naturelles mondiales. Debarati Guhasapir est directrice du CRED.
Plus de 50 millions de personnes sont désormais touchées. Cela va empirer en 2016. Nous allons faire face à une catastrophe humanitaire dans le courant de cette année et il y aura des flux migratoires.
Les sécheresses sont les catastrophes dont l'impact dure le plus longtemps sur le développement humain, d'après Guha Sapir.
La sécheresse conduit à la malnutrition sévère chez les enfants en bas âge et la malnutrition sévère est la cause de décès chez ces enfants dans une période de 4 à 6 semaines.
Guha Sapir affirme qu'il y avait des signes avant-coureurs de la catastrophe de 2011, mais les gouvernements, dit-elle, n'y ont pas porté attention. Un scénario que les pouvoirs publics ne devraient pas répéter, suggère la directrice du CRED, qui ajoute qu'il ne faudra plus attendre que les Nations Unies déclarent une situation de famine pour agir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.